L'expérience commence. Ce soir, un animal va prendre la parole. On renverse la perspective ordinaire. Il va raconter des histoires qui mettent en scène des humains. Ce n'est pourtant pas un récit d'anticipation, au contraire, on remonte le temps, on creuse le passé. C'est un animal fantomatique. Celui qui va vous parler a été disséqué au XVIIe siècle. Il habite maintenant un livre d'anatomie de la Bibliothèque nationale de France. Mais pourtant, il va être vivant. Alice Roland et Stéphane Montero sont allés le ressusciter et lui ont donné une voix pour se raconter. C'est un habitué des bibliothèques, il est très bien informé et a été témoin du début de notre modernité. Un témoin qui rapporte des découvertes, des avancées, mais aussi des systèmes de domination en train de se mettre en place dont la nature et les animaux ne sont jamais les gagnants. Esprit animaux, par Alice Roland, Stéphane Montero, réalisation Véronique Lamandour. Vous, où êtes-vous? Où? Comme moi, au lieu de rendez-vous. Nous avons rendez-vous dans le passé. C'est un lieu fait d'une matière blanche, brumeuse, en fait un peu gluante. Là où se rencontre ce qui est à venir et ce qui est advenu. Vous et moi. Vous qui êtes, écoutez. Je ne suis plus. Une histoire me remplace. Vous l'entendez ? Si vous pouviez vous approcher, vous me verriez sur un lit blanc, la page d'un livre, un livre rarement ouvert. C'est un livre d'anatomie. En le feuilletant, vous y verriez aussi un castor, un dromadaire, un ours et une gazelle. Anatomie animale. Le livre est blanc. Avec une couverture en cuir. Il a cette odeur, vous savez, l'odeur des vieux portefeuilles où il reste de vieux billets. Longtemps, ce livre, qui est mon lit, ma tombe, mon camping-car spatio-temporel, a été conservé dans une bibliothèque rue Richelieu, dans un arrondissement de Paris qu'on nomme le deuxième. La Bibliothèque Royale, Nationale. Un auteur antique dit que je suis...
semblable au Coropithecus, qui est un animal inconnu.
Et tous les animaux inconnus sont mes semblables. Un certain Claude Perrault m'a disséqué dans cette bibliothèque de la rue Richelieu. C'était au mois d'octobre 1668, selon le calendrier grégorien, qui est toujours en vigueur. Là se réunissait, tous les samedis, l'Académie des sciences nouvellement fondée. Je vis dans un paysage exotique. Une gravure de Sébastien Leclerc, insérée entre les pages 48 et 49 du livre. Derrière moi, de tout petits palmiers. Au-dessus flottent mes organes, bien rangés. Et avec mes organes ?
Une crête élevée droite sur le sommet. Les vertèbres en manière de scie. Le dos aigu et comme tranchant. Vertèbre 74. Deux au col, 50 à la queue. Côte 18. Pâle, toutes les nuits. Les yeux, quelque chose de particulier, sphérique, s'avançant en dehors de toute la moitié de leur globe. La prunelle brillante, brune et bordée comme d'un petit cercle d'or. Sous le thorax, des membranes transparentes, des cavités ou conduits. Aucune apparence de rate. Membrane blanche, fibre blanche en forme de veine lactée, membrane blanche et un peu transparente et fort délicate, des fibres entrelacées. Membrane couverte de taches tout du long, comme si elle avait été imbue d'un sang noirâtre. Membrane plissée, comme un bas de soie sur une jambe.
Je connais ces noms. Ce ne sont pas les miens.
Le cœur, assez petit. Les oreilles du cœur, fort grandes. Cet animal n'est qu'une peau vivante.
Ordonna que les démonstrations de l'anatomie et des opérations de chirurgie se feraient au jardin royal, à portes ouvertes et gratuitement.
On ne sait pas pourquoi les Grecs ont donné un si beau nom à une si vile et si laide bête. Caméléon.
Depuis le commencement de l'année millénaire.
Ainsi me décrit Claude Perrault, après m'avoir ouvert au scalpel. Il venait d'une famille de 7 enfants, 6 frères et une seule sœur, Marie. Marie Perrault est morte à la fin de l'enfance. Ses frères ont presque tous eu des postes haut placés auprès du roi. Parmi les frères, Charles, beaucoup plus jeune que Claude. Charles Perrault est né quelques mois après la mort du dernier auroch dans une forêt d'Europe. Quand il avait 7 ans, a été fondée l'Académie française, l'âge de raison de la langue. Celle que nous parlons, vous et moi. Il n'y a pas d'auroch dans les contes de Charles Perrault, pas de caméléon non plus. Mais des loups, des chats, qui parlent un français châtié. Du caméléon.
Il est vrai de dire que c'est un animal qui ne reçoit et qui ne rend aucun son.
Comme aux oreilles des académies, les bouches qui parlent loin d'elles, les bouches qui ne parlent pas français. Et moi, je me suis tue pendant des siècles, avant et après ma dissection. Il y a beaucoup de papiers dans la Bibliothèque nationale, beaucoup d'animaux inconnus, parlant des langues oubliées. Moi qui ne suis qu'un caméléon, qu'une image de caméléon, qu'une histoire de caméléon, même plus vraiment un animal, plus ou moins une machine anatomique.
Qui ne reçoit et qui ne rend aucun son.
J'entends pourtant les contes que les humains se racontent et couchent dans les lits de papier pour se les raconter encore. Un lit de papier bruit. C'est un homme de mon vieux siècle, le 17e.
Supposons donc maintenant que nous sommes endormis et que toutes ces particularités-ci, à savoir que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous étendons les mains et choses semblables, ne sont que de fausses illusions. Et pensons que peut-être nos mains, ni tout notre corps, ne sont pas tels que nous les voyons. En y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé, lorsque je dormais, par de semblables illusions.
Quand il était encore un tout jeune militaire qui voulait voir du pays, il est arrivé à cet homme une aventure. L'armée dans laquelle il s'était engagé comme volontaire s'est arrêtée dans un village d'Allemagne. Il ne s'y passait rien. La guerre n'était pas finie, mais comme en suspens. C'était le début de l'hiver et le jeune homme avait trouvé une chambre chauffée. À cette époque, en 1619, on appelait ce genre de chambre un poêle. Il faisait très froid en Allemagne. C'était les derniers hivers des aurochs. Au lieu de jouer aux cartes avec les autres, ce jeune militaire a préféré s'enfermer dans le poêle, sa chambre bien chaude, seul, de jour comme de nuit. Puisqu'il ne se passe rien, je vais, se dit-il, apprendre à lire seul
dans le grand livre du monde. Le monde est écrit en langue mathématique
et explicable de bout en bout. On ne pouvait le comprendre qu'en le regardant comme de l'extérieur, depuis un poêle carrelé de faïence, depuis une ville de garnison où il ne se passe rien. Enfermé dans le poêle, il est parti à la recherche de cette nouvelle vérité.
Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres.
Les sens sont trompeurs.
Je suis une chose qui pense.
Au terme du voyage, il n'est plus resté qu'une seule chose, comme une terre qui apparaît un matin dans un climat inconnu, un peu désertique.
Notre raison, l'évidence de notre raison.
Nouveau continent pour les choses qui pensent. Nouveau monde où s'affranchir des maîtres à penser. Quand le jeune homme est sorti du poêle, riche d'un nouveau continent, plus riche que les Amériques, il ne se passait toujours rien dans la garnison allemande. Les jeux de cartes suivaient leur cours, les gagnants gagnaient, les tricheurs trichaient. Mais il savait que le monde avait changé. Le bruit et la lumière l'étourdissaient.
Soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous ne nous devons jamais laisser persuader qu'à l'évidence de notre raison.
En voyage, par coquetterie ou par discrétion, il se fait appeler
le gentilhomme du Poitou.
Toute sa vie, il a annoncé le monde qui vient. Le monde, annoncé, est venu. Nous y sommes. Vous et moi. Un monde où l'on peut penser
comme s'il n'y avait que moi au monde.
Un monde où l'on peut vivre
comme maîtres et possesseurs de la nature.
Qui sont les maîtres? Qui les possesseurs? Moi qui étais une bête, on disait que je n'avais pas de raison. Mais je sentais que les maîtres et possesseurs, il y en aurait d'un monde à l'autre. Et maintenant que je suis une planche anatomique dans un livre, une anatomie parlante, oui, explicable, expliquée, pleine de mots savants, décomposée, en partie rationnelle, en vertèbres, en membranes.
Je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense.
Un cyborg ?
Qu'une chose qui pense.
Qui pense à vous. Vous qui vivez dans ce nouveau monde. Ce n'est pas un monde, c'est une faille. Comment est la faille chez vous ? Comment ? Décrivant mon anatomie, Claude Perrault conclut, et c'est la dernière phrase,
« Il demeura toujours dans sa froideur et dans sa tranquillité ordinaire. » Belon a remarqué deux espèces de caméléons, dont l'un se trouve en Arabie, l'autre en Égypte.
Je suis l'Égyptien. J'ai été apporté vivant de ce pays en 1668, année de ma dissection. Quand je suis arrivée en France, c'est à la ménagerie de Versailles qu'on m'a conduit. Elle était flambant neuve. On disait que pour la construire plus vite, l'entrepreneur avait obtenu du roi de France et du curé local une dérogation pour faire travailler ses ouvriers tous les jours, même le dimanche. Les cours qui nous abritaient formaient un octogone.
Tout était arrangé de façon à être vu, pour ainsi dire, d'un seul regard.
Nous étions rangés selon nos noms, comme dans un livre. Nous étions essentiellement des animaux étrangers. Il y avait un éléphant, pris au royaume du Congo par les colons portugais et offert par le roi du Portugal à la France. Un jour, un peintre, car on nous peignait. Dans la ménagerie, il y avait nous et nos portraits. Un peintre, donc, voulait le peindre
dans une attitude extraordinaire, la trompe élevée et la bouche ouverte. Pour le faire tenir dans cette pose, le domestique du peintre lui jetait des fruits qu'il recevait dans sa bouche. Souvent, le domestique feignait d'en jeter. L'animal se disposait à les recevoir, mais il était trompé. Au moment où le peintre allait jouir de son travail, l'éléphant dirigea sur lui sa trompe et en fit sortir une étonnante quantité d'eau qui inonda l'artiste et son ouvrage.
Cet éléphant avait déjà piétiné un homme qui se moquait de lui. Et il en avait froissé un autre contre une muraille, pour la même raison. Quand il est mort, Claude Perrault l'a disséqué lui aussi, à l'Académie des sciences, avec l'aide d'un certain monsieur Duvernet.
Jamais, peut-être, dissection anatomique ne fut si éclatante. On avait couché le sujet sur une espèce de théâtre assez élevé. Le roi ne dédaigna pas d'être présent à l'examen de quelques-unes des parties.
Monsieur Duvernet, englouti dans l'animal, en a découvert une ignorée jusque-là.
Un grand événement.
Cet animal en colère, cet animal tueur, qui avait piétiné un homme, était pourvu
d'un clitoris long de 2 pieds et demi.
C'était une éléphante avec un énorme clitoris resté invisible pendant des années. À Versailles, dans ce qu'on appelait sa loge, une grande cage vitrée, puis sur la scène du théâtre anatomique de l'Académie des sciences, l'éléphante, vivante ou morte, n'avait cessé de provoquer la stupeur. C'est aussi de la stupeur qui frappa les Européens ayant eu affaire à la reine Jinga, qui régnait sur le royaume voisin du Congo et était morte quelques mois avant la naissance de l'éléphante. Jinga, rapporte-t-on, recevait les ambassadeurs
sur un trône fort élevé, ne se laissant voir qu'à travers des vitres, et elle fit la guerre aux Portugais,
les obligeant à payer le prix de ce qu'ils prenaient sur les bords du fleuve Congo, que ce soit du cuivre, du fer, des hommes, des femmes, des éléphantes, des clitoris, de la colère. Il y a des surprises dans les animaux que nous sommes, vous et moi. Des choses qui, cachées toute une vie, finissent par apparaître. Si elles n'apparaissent pas dans la vie, elles apparaissent dans la mort.
Le gentilhomme du Poitou,
si discret, était aussi un animal à surprise. À sa mort, on lui a découvert non pas un clitoris, mais un petit carnet gardé précieusement de sa jeunesse. Dans le carnet, le récit de 3 rêves. 3 rêves qui, disait-il, l'avaient conduit
à l'affaire la plus importante de sa vie.
La recherche d'un nouveau monde, d'un monde rationnel, raisonnable.
Un grand événement. 3 songes consécutifs en une seule nuit.
En novembre 1619, quand il était enfermé dans le poêle, solitaire. Il y avait du vent, beaucoup de vent dans les rues de son rêve, dans le poêle.
Un vent impétueux, l'emportant dans une espèce de tourbillon. Il croyait tomber à chaque pas.
Il y avait un melon qu'on voulait lui donner.
Puis un bruit aigu et éclatant qu'il prit pour un coup de tonnerre. Beaucoup d'étincelles de feu.
Soudain, il pouvait voir dans le noir. Il a vu un poème sur une page qui disait
« Quod vitae sectaboriter », etc.
« Quelle voie suivrai-je dans la vie ?» etc.
« Quod vitae sectaboriter », etc.
La voie, il l'avait.
Brûler sa maison. Brûler sa maison.
Dans le poêle. Chercher un nouveau monde où remuer loin des autorités. Loin aussi des contes de bonnes femmes, qui pourtant n'ont jamais eu grande autorité. Tout rebâtir sur la raison. Dans le récit de ses aventures, paru des années plus tard, René Descartes,
le gentilhomme du Poitou,
parle du poêle où il s'est enfermé. Il parle de la garnison allemande. Mais il ne parle pas de ses rêves. Sous-sol de la raison. Cave secrète de la vérité des maîtres et possesseurs. Dans le feu de cette nuit-là, la vérité s'est séparée des merveilles. Et les rêves ont été oubliés de l'histoire. On dormait mal à la ménagerie. On avait le sommeil agité. Il y avait là aussi un castor qu'on a disséqué la même année que moi. Il venait du Canada, que les Français appelaient Nouvelle-France. Un nouveau monde plein de richesses et de castors. Au bord du fleuve où était né ce castor, vivait un peuple qu'une guerre avait chassé de ses terres. C'étaient les Wendat, que les Français appelaient les Hurons. Ce n'était pas la première fois que des Français employaient ce nom. Avant qu'on découvre les Amériques, il y avait des Hurons dans l'Ancien Monde.
Hurons, nom donné aux révoltés du soulèvement de 1358. Ou, personnage vulgaire, grossier. Exemple, il lui dit plusieurs injures, en l'appelant par plusieurs fois « vilain Huron ».
En mai 1358, advint une grande merveilleuse tribulation en plusieurs parties du royaume de France. Les paysans des environs de Saint-Leu et de Clermont au diocèse de Beauvais, ne pouvant plus supporter les maux qui les accablaient de tous côtés, et voyant que leur seigneur, loin de les défendre, les opprimait et leur causait plus de dommages que les ennemis, crurent qu'il leur était permis de se soulever contre les nobles du royaume et de prendre leur revanche des mauvais traitements qu'ils en avaient reçus. Une troupe de gentilshommes, environ 300 lèvres, dévalèrent à l'extrémité du Beauvaisis. Puis ils vinrent à Gaillefontaine et là, ils oxyrent environ 1000 paysans. En Brie, le comte de Roussy en oxyre une grande foison et les fit pendre à leur porte.
D'un monde à l'autre, de l'ancien au nouveau, il y avait
des maîtres et possesseurs.
Il y avait des Hurons, dont on ne trouvait pas la raison. Là où il y a des maîtres, il faut qu'il y ait des Hurons. Les Wendat, que les Français appelaient Hurons, parlaient le Wendat, langue que les Français appelaient le Huron. Mais après plusieurs siècles de domination,
leur idiome s'est entièrement perdu.
Dans le dictionnaire de la langue huronne, que Gabriel Sagard a écrit en 1632, au moment où la nation Wendat comptait encore des dizaines de milliers de membres, il signale que les Wendat, ou Hurons, nomment les castors
Tsutaillés,
ou peut-être
Tsutaillés.
Le castor de la ménagerie
avait été plusieurs années enfermé à Versailles sans avoir la liberté d'aller dans l'eau.
Il était désormais castor canadensis, animal classifié, bien rangé. Castor canadensis avait l'habitude de poser sa tête sur
une des pattes de devant,
les yeux clos, la fourrure de l'oreille contre la fourrure de la patte. Il ne dormait pas. Il entendait le souffle ou le grondement de la ménagerie entière.
Chaque jour, au son du tambour,
les oiseaux des autres cours venaient recevoir leur nourriture. Et Castor canadensis se tournait, se retournait, ne dormait pas. L'eau de son fleuve se perdait dans le grondement de la ménagerie. Il y avait une autre eau dans ses souvenirs. L'eau de l'océan qu'il avait porté jusqu'en Europe, dans un navire marchand de la flotte française, dans une petite cage. Il en entendait le battement à travers la coque du bateau. Il l'entendait jusque dans la ménagerie. Ce n'était pas le bruit d'un lieu. C'était le bruit de l'arrachement au lieu. Sur le bateau, il n'y avait place que pour deux sortes d'êtres, propriété et propriétaire, qui seuls valaient la peine qu'on dépense tant d'argent à le faire naviguer. Sur un autre bateau, sur une autre mer, quelqu'un qui n'était pas un propriétaire, qui était même presque une propriété, celle de son capitaine, auprès de qui il était en apprentissage, avait dû lui aussi quitter les lieux où il avait vécu. C'était un jeune Anglais, fils d'un drapier qui n'avait aucun bien à lui laisser. Sur ce bateau, sur cette autre mer, eut lieu ce qui fut
de sa vie le plus remarquable accident.
Le navire où il apprenait le métier de marin se dirigeait vers la Normandie. Tout avait mal commencé. Alors que le bateau cabotait,
son maître l'avait fait grimper sur une échelle de corde d'où il devait guetter un clocher.
Il était resté longtemps là-haut. Il ne se passait rien, c'est-à-dire aucun clocher.
C'est le capitaine qui a fini par le voir depuis le pont.
Trop tard déjà. Le bateau avait heurté un écueil. Redescendu de son échelle, le jeune homme a appris, sous les coups de corde de son maître, qu'il n'y voyait rien et n'avait jamais rien vu. Ses yeux étaient affligés d'une myopie galopante. Mais il a appris autre chose sur ce navire marchand. Lorsqu'on a débarqué sa cargaison près de Caen, il s'est découvert le sens des affaires. Vendre, acheter, revendre, et que vienne l'argent.
Son succès a été si grand dans cette entreprise qu'il lui a fourni de quoi pourvoir à ses besoins et à son éducation.
C'est ainsi que le jeune marin myope est arrivé à Paris, quelques années avant Castor canadensis. Il s'est introduit dans le petit milieu parisien des savants. Il y avait là d'ailleurs René Descartes, qui n'était plus tout jeune, mais dont la raison brillait encore de toute son évidence. Et puis, il y avait un autre homme, plus âgé encore, avec qui le marin myope s'est lié d'amitié autour d'un livre.
L'anatomie de Vésale.
Qu'ils ont aussitôt entrepris d'étudier ensemble. Cet homme qui était son aîné de 35 ans, était un Anglais lui aussi. Il lui a fait une proposition. Voulait-il être son secrétaire pour un ouvrage d'optique qu'il allait écrire ? Le savant féru d'optique et d'anatomie et son nouveau secrétaire myope marchaient dans Paris. Ils parlaient. Le vieil Anglais était vêtu, dit-on,
d'un manteau de velours noir bordé de fourrure.
Du castor, peut-être ? Il avait les mains agitées d'un tremblement nouveau et qui ne devait plus cesser.
Mais son œil plein de vie et d'esprit brillait, pour ainsi dire, comme un charbon ardent.
Thomas Hobbes, car c'était le nom du savant qui employait le jeune Anglais, Thomas Hobbes et son secrétaire partageaient un exil, loin de l'Angleterre, en pleine guerre civile.
Dans ces sortes de bottes en cuir d'Espagne
qu'il portait toute l'année, Thomas Hobbes accompagnait d'un bon pas le Nouveau Monde, cette immense horloge qui tic-taquait sous ses pieds.
La raison en est la marche,
expliquait-il à son secrétaire. Mais dans ce nouveau monde-là, il n'y avait pas seulement un esprit solitaire ou deux esprits amis guidés par la raison. Hobbes et son secrétaire ne s'étaient pas enfermés dans le poêle de René Descartes. Autour d'eux, il y avait foule. Des presses d'imprimerie, des pièces d'or, des services d'argenterie, des draps de laine et de soie, des frégates, des navires marchands, des mines d'or et d'argent, des casseroles de cuivre, des fruits dans des coupes en faïence de Delphes, des manufactures de fusils et pistolets. Et dans ce monde de corps, expliquait le vieux Thomas Hobbes,
la vie humaine peut être comparée à une course. Nous devons supposer que dans cette course, on a d'autres buts et d'autres récompenses que de devancer ses concurrents. Abandonner la course, c'est mourir.
Son secrétaire se souvenait de ses premiers jours en France, quand il avait vendu la cargaison du bateau qu'il avait amené. Il avait devancé ses concurrents. On n'avait qu'à devenir propriétaire des richesses du monde pour en jouir. Mais la raison était-elle perdue dans cette foule d'objets, de désirs, dans cette fête foraine du XVIIe siècle? Le secrétaire l'avait-il perdue dans le tourbillon des nouvelles richesses du globe? Il semblait au contraire qu'il n'avait qu'à, comme tout un chacun, s'en remettre
à l'évidence de notre raison. En somme, partout où il y a place pour l'addition et la soustraction, il y a place aussi pour la raison. Et partout où il n'y a point place pour elle, la raison n'a rien à faire. La raison, en effet, n'est en ce sens que le calcul.
Une bonne qualité pour les propriétaires.
Le monde est écrit en langue mathématique.
Le commerce aussi. Et dans ce monde où s'affairent les calculateurs,
qu'est le cœur qu'un ressort, et les nerfs 100 000 corps.
For what is the heart but a spring, and the nerves but so many strings?
And the nerves but so many.
Qu'est le cœur?
À la fin de la guerre civile, William Petty, c'était le nom du jeune secrétaire, est rentré en Angleterre, laissant son vieux maître à son exil parisien. Il a d'abord trouvé un poste à l'université d'Oxford, où il a enseigné l'anatomie. L'Angleterre, à la sortie de la guerre civile, rêvait de liberté.
Ce qui fait que je suis moi,
ce qui fait que je suis moi,
que je suis propriétaire de ce moi,
c'est que je suis propriétaire de ce moi,
n'ayant pas de moi,
autrement,
je ne serai pas moi,
n'ayant pas de moi,
je ne serai pas moi,
je ne serai pas moi.
Je n'ai d'autres droits que d'être l'individu
que je suis,
de jouir de ma vie,
de jouir de ma vie qui est ma propriété,
qui est ma propriété.
Alors on pourrait vivre
comme s'il n'y avait que moi au monde.
Et jouir de la liberté des propriétaires. Bientôt, William Petty a été envoyé en Irlande pour y découper la terre en parcelles et les reporter au cadastre. En découpant la terre, il en a obtenu de bons morceaux. Par addition, soustraction, opération de la raison. Belle ascension pour un fils de drapier sans héritage. Ces opérations lui ont permis de devenir l'heureux propriétaire d'un navire marchand.
Qui ajoutait beaucoup à sa fortune jusqu'à ce qu'il coule dans la mer d'Irlande.
Au large des terres qu'il avait cadastrées. Beaucoup de ceux qu'on expropriait quittaient l'Irlande. Certains avaient pris le bateau pour les Antilles, où ils espéraient faire fortune, loin de leurs terres cadastrées, colonisées. D'autres bateaux encore, dans d'autres directions, d'autres terres colonisées. Pour William Petty, l'homme du cadastre, de simples mouvements de population, calculables aussi dans le nouveau monde bruissant de chiffres.
Political arithmetic. Arithmétique politique.
Il faut croire que la langue aspirait à se faire monnaie, et la monnaie langue, calculable, échangeable et remboursable.
Une langue universelle, une espèce de calcul infaillible. Alors, raisonner et calculer serait la même chose. Et les erreurs ne seraient que des erreurs de calcul.
La bibliothèque, qui abritait mon lit de papier, a partagé un temps ses bâtiments avec la Bourse de Paris, nouvellement fondée, et le siège de la Compagnie des Indes, société commerciale. Hasard, sans doute ? Improbable empire universel de la raison ? Partout prenant des gens et des terres comme autant de succursales d'une maison mère, la raison des propriétaires.
Il nous faut donc examiner maintenant comment il se fait que, de par sa nature, la monnaie se confond avec la terre. Je dirais plus. Si nous voulions considérer ce qui appartient purement à la nature, et ce qui appartient précisément au travail, nous verrions qu'en la plupart des revenus, 99 centièmes doivent être attribués au travail. Il ne saurait y avoir de plus ample démonstration sur ce sujet que celle que nous présentent les divers peuples de l'Amérique. Les Américains sont très riches en terres, mais très pauvres en commodités de la vie. La nature leur a fourni la matière d'une grande abondance. Cependant, faute de travail et de soins, ils n'en retirent pas la centième partie des commodités que nous retirons de nos terres. Parce que Dieu...
C'était là le constat d'un autre secrétaire, quelques années plus tard. Ce secrétaire-là travaillait pour des lords anglais propriétaires de la Caroline, en Amérique, où lui-même n'avait encore jamais mis les pieds.
L'homme étant le maître... et le propriétaire de sa propre personne, de toutes ses actions, de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété. Je peux dire véritablement...
Ce secrétaire-là racontait des contes que les aventuriers de la Caroline emportaient en bateau et répandaient sur l'Amérique, qui avait le don, avec l'aide de quelques armes à feu, de faire taire les autres voies.
Que nous devons attribuer la plus grande partie de ces productions utiles et abondantes.
Ces contes finissaient toujours ainsi.
Doit être mis
les propriétaires s'unirent par des traités en une heureuse communauté consentante pour atteindre
la plus grande et la principale fin, conserver leur propriété.
Une communauté sans mort, sans heurts.
Dans l'Amérique toute vide et destituée d'habitants,
disait-il parfois. Dans la colonie de Caroline, par exemple, dont ce secrétaire, John Locke, avait rédigé une partie de la Constitution. De toute sa vie, hélas, il n'a jamais pu traverser l'océan. Il n'a jamais vu l'Amérique, conte et continent qu'il a contribué à écrire. Les bateaux allaient et venaient avec leurs cargaisons, avec leurs peines et leurs arrachements. Il les accompagnait en mots et en argent. Des actions à la
Royal African Company
qui vendait des esclaves. Et de temps en temps, un bateau ou un autre rapportant les richesses des terres lointaines avait aussi à son bord une bête, sur laquelle l'Académie des sciences de Paris ou la Royal Academy de Londres poseraient l'œil de la raison, éclairant le monde jusqu'à ses confins.
Prix des oiseaux et animaux du Louvre. Livre par les armes.
D'autres que Castor Canadensis ont fait le voyage.
Les en livre.
Un Coatimundi du Brésil, un cerf du Canada, une grande tortue des Indes, un casoa, huit porcs-épics, et encore quatre coatis, huit autruches, plusieurs singes de différentes espèces.
Aigrette, 22.
Claude Perrault, 44, qui nous recevait parfois lui-même 33, à notre arrivée à la ménagerie, a noté un fait curieux 33, en disséquant les singes.
55, il y a des animaux, 44, comme le singe, blanc, qui ont tous les organes que l'homme a pour la parole, et même les plus particuliers comme l'aluette, qui ne se trouvent en aucun autre animal et qui cependant ne parle point.
Koulki, 30. Marlou, 25. Un chat tigré engendré d'un tigre, 350.
Ce défaut de parole, Thomas Hobbes l'avait remarqué lui aussi. Il en avait tiré une maxime.
On ne peut pas faire de pacte avec les bêtes. Faire des pactes avec les bêtes est impossible, parce qu'elles manquent de langage pour pouvoir signifier leur volonté. Bien qu'ils aient une luette, les singes n'ont pas assez d'esprit pour parler.
Pour ma part, j'ai entendu il y a longtemps, dans une vie qui n'est plus la mienne, une autre explication au mutisme des singes. Elle circule
dans les lubies du peuple ignorant qui les tire des traditions de vieilles femmes ou de vieux poètes.
Comme le dirait Thomas Hobbes. Vieilles femmes et vieux poètes disaient que si les singes ne parlaient jamais, ce n'était pas parce qu'ils ne le pouvaient pas. C'était pour être sûr de ne jamais travailler. Et tandis que les singes se taisaient, sur les bateaux puis à Versailles, les singes, les caméléons, les castors, les éléphants, leurs propriétaires se laissaient aller au désir des temps modernes. Travailler plus, faire travailler plus, même le dimanche.
Un désir constant et insatiable d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse qu'à la mort.
Il se peut qu'animaux et machines aient maintenant plus d'âme que les hommes, qu'ils aient ramassé et continuent de ramasser celles que les hommes jettent par les fenêtres des maisons, des immeubles, des bureaux, et même par les tours sans fenêtres.
Des bureaux continuent de ramasser des bureaux que les hommes, des bureaux et machines, des bureaux, des immeubles, des bureaux, il se peut, des bureaux sur des bureaux, des bureaux fenêtres. Des bureaux continuent de ramer des bureaux comme que les hommes.
Mais revenons au secrétaire. Non pas John Locke et sa constitution avec Happy End à l'américaine, non. William Petty, le self-made man, ami et secrétaire de Thomas Hobbes. Peu après son arrivée à Oxford, au moment où il donnait des cours d'anatomie, il s'est passé
un très rare et remarquable accident.
C'était un samedi matin du mois de décembre 1650.
Un jour extrêmement froid et pluvieux.
Le jeune William Petty et ses étudiants, à peine plus jeunes, devaient disséquer un corps rare. Celui d'une femme, tout aussi jeune, qu'on avait pendue à l'aube. À Oxford alors, seuls pouvaient être disséqués les corps des condamnés. Parfois, ceux qui les aimaient parvenaient à récupérer le corps avant qu'on l'emporte pour l'ouvrir. Des émeutes éclataient au pied des gibets pour empêcher la dissection. Mais ce matin-là, ça n'avait pas été le cas. La condamnée s'appelait Anne Green. C'était une fille de cuisine.
Employée dans la maison de Sir Thomas Reed, d'environ 22 ans, forte, bien en chair, aux traits banals et avenants. Étant, comme elle le disait, souvent pressée par les belles promesses et autres sollicitations lascives de M. Geoffrey Reed, petit-fils de Sir Thomas Reed, jeune homme de 16 ou 17 ans,
elle avait fini par lui céder.
L'enfant qui en était né, mort-né, avait été retrouvé dans la cuisine.
Causant le soupçon qu'étant la mère, elle l'avait tué et jeté là, cachant à la fois l'enfant et sa honte. Sur la place du Gibet, après avoir chanté un psaume, elle dit quelques mots quant au fait qu'on lui reprochait et sur la lubricité de la famille qui l'employait. On la poussa de l'échelle, la laissant pendre par le cou durant une demi-heure.
À 9h ce matin-là, William Petty, ses collègues et ses étudiants sont entrés dans la maison prêtée pour la dissection. Anne Green était dans son cercueil. Mais il y avait une chose étrange.
Un lointain son rauque. Percevant de la vie en elle,
les anatomistes ont entrepris de la ranimer. S'en est suivie une grande pagaille, parce qu'on ne savait pas quel remède lui administrer. Elle a survécu à tous, et soudain, s'est remise à parler, reprenant le discours qu'elle tenait avant l'exécution.
Comme une horloge dont les poids auraient été retirés un moment, puis raccrochés.
Note un des étudiants.
Elle est devenue une grande merveille.
Animal, machine incompréhensible, défiant les lois de la nature, de la raison et du comté, elle a été acquittée et est rentrée auprès de ses amis, emportant son cercueil comme un trophée.
Je ne reconnais aucune différence entre les machines que vous avez et les libertés que l'on a mis à la et sans doute que lorsque les hirondelles viendront dans le temps, elles agiraient en cela comme un horloge.
Quelques heures passent, ou quelques siècles, mais on revient. On reprend où on en était. Les filles de cuisine, les animaux inconnus, les hurons. On revient et on reprend. La langue des hurons, des Wendat, n'est pas morte. Elle revient. Leurs descendants ont trouvé un mot pour le dire. La langue étant
dormancy.
Elle dort seulement. Comme Anne Green, elle émet
un lointain son rauque.
Est-ce que la langue rêve dans son sommeil? À quoi une langue peut rêver? Il faut dormir pour le savoir. Alors, peut-être que les langues sans académie, le picard, le champenois, le rouerga, le limousin, le sarga, le limousin, le chinsan, le lorrain, le limousin, le rouchin, le gallo, le lorrain, le sarsan, le gallo, le sarsan, le bressan, le gallogien, le lamérin, le gothique, le béarn, le provençal, le languedocien, l'ange, le vosgien, ne sont qu'endormis dans des lits encore plus fragiles que le papier. Nous sommes les cauchemars des langues dormantes. Vous qui êtes. Moi qui ne suis qu'un animal en papier. Vous qui êtes. Écoutez. Une langue dort.
Outtawash. Elle dort.
Chose étrange, le mot « rêver » n'apparaît pas dans le dictionnaire de la langue huronne de Gabriel Sagar. À la page où on devrait le trouver, il y a le verbe « revenir ».«
Death threat, je reviendrai ».
Comment reviendront ces langues? Peut-être qu'on ne les reconnaîtra pas. Je tends l'oreille.
Le caméléon qui est sans oreille n'a de la promptitude qu'à la langue à qui rien n'échappe.
Alors je tends la langue. Ça marche avec un organe ou un autre. Et j'écoute les rêves et tout ce qui résonne, sans raison. Depuis la dissection que j'ai subie en 1668, entre les mains de Claude Perrault, je suis
un sac vide
où fourrer le savoir des autres, mais aussi leurs rêves, leurs terribles rêves.
Car toute la vie est un rêve, et les rêves, un rêve.
livre, 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 partout. Langue, langue, langue humaine. Sur des pages qui craquent, mais qui nous supportent encore. Dans cette bibliothèque, j'ai retrouvé la trace du fleuve canadien qu'avait perdu le castor de la ménagerie. Gabriel Sagard l'a plusieurs fois parcouru en bateau dans les premières années du XVIIe siècle et en a tiré un livre.
Le grand voyage du pays des Hurons
qui accompagne son dictionnaire de la langue huronne. Il y décrit le commerce florissant des peaux de castor, marchandises prolifiques qu'on peut acheter aux sauvages et aux coureurs des bois.
10 livres la peau.
Marchandises, marché, main d'œuvre, Hurons. Je connais ces noms. Ce ne sont pas les nôtres. Dans le livre de Sagard, d'autres aventures résonnent pour les castors. D'autres vies pour un castor. D'autres morts. D'autres histoires possibles qui se passerait pendant la grande fête des morts chez les Wendat, par exemple.
Les femmes qui ont à y apporter les os de leurs parents les prennent au cimetière. Elles les nettoient et les enveloppent de beaux castors neufs et de rassades et de colliers de porcelaine que les parents et amis contribuent et donnent. Puis on tend la fosse partout de peaux et robes de castors neuves. Alors les vivants versent tous les os des sacs dans la fosse parmi la marchandise et après rejettent la terre par-dessus.
Assemblés et joints ensemble avec du fil de laiton. Pour les mieux conserver, on les fait bouillir et on les nettoie, comme on a fait ce grand sur lequel nous continuerons la démonstration de notre ostéologie.
La marchandise. Jeter avec les os des morts.
Ostéologie, qui signifie os et de logos.
La marchandise.
Et de logos, qui veut dire
ce que Gabriel Sagard appelle
la marchandise
a une âme alors, sur les bords du fleuve.
Et les âmes de ces chaudières, haches, couteaux, castors, s'en vont servir les âmes des défunts.
Et toutes s'en vont
danser et se réjouir.
Avec une déesse dont Gabriel Sagard, moine récollet, donne le nom.
Ata-Ensik.
Ou
Ata-Ensikwe.
Une autre histoire de Castor Canadensis. Fantôme qui danse pour toujours, plutôt qu'animal-machine de l'anatomie. Âme des bords d'un fleuve canadien, plutôt qu'exilé à Versailles et Paris. Une autre histoire de la marchandise, dansant avec les morts.
Tenant la route et le chemin des étoiles.
Plutôt que calculant avec les vivants. Castor, caméléon, éléphant, sapajou. Nous sommes des machines qui avons une mémoire, qui sommes une mémoire, une mémoire pleine d'oubli.
Une mémoire qui avons une âme, qui avons une mémoire, qui sommes une mémoire. Nous sommes des machines, mémoire qui sommes. Nous sommes des machines qui avons une mémoire. Nous sommes des machines, une mémoire. Nous sommes des machines.
Je cherche les souvenirs des débuts des temps modernes, à l'orée desquels je suis mort et né. Monde nouveau, conclu par traité entre propriétaires, de chaque côté de l'Atlantique. On nous peignait à la ménagerie de Versailles. On nous gravait à l'Académie des sciences. Et d'autres, beaucoup d'autres, peignaient. Les vanités étaient à la mode en peinture. Est-ce un hasard si les peintres des riches villes de Hollande, en plein essor commercial et colonial, ont peint tant de vanités, tant de peintures accolant pièces d'or et têtes de mort, map-monde et têtes de mort, traités et têtes de mort. Ma tête est aussi vide que le crâne d'une vanité.
Écoute, ce grand moment, ce truc, tu... vers la créature, qui est le passage au second. Ces ventricules sont beaucoup plus amples, comme un petit sac. Comme un petit sac.
Vous qui êtes, je cherche, pour mener mon étrange vie, les interstices entre maîtres et possesseurs. Je me glisse.
Comme les poissons qui ont le corps flexible y emploient les replis qu'ils sont capables de faire.
Dans la faille toujours ouverte, traversée de nouvelles vérités, de nouvelles dominations. Échapper, comme tout ce qui vit sans raison, comme tout ce qui ne signe pas de pacte, échapper, comme la vie échappe à la raison anatomique, comme le tout échappe aux parties. Et je cherche les souvenirs que nous n'avons pas, souvenirs de ce qui a été désiré et vaincu, rêvé et vaincu. Alors, préciser les rêves, les sortir du brouillard, et de l'hébétude où baignent les vies. Les remonter comme gros poissons ou petites fritures. Trouver le lieu de rendez-vous et qu'adviennent les rencontres. Depuis quelques années, le livre, le lit, qui me contient, a été transporté dans de nouveaux bâtiments de la Bibliothèque nationale. L'architecte qui les a dessinés s'appelle Perrault, Dominique Perrault. Peut-être un lointain cousin de Charles et Claude, conteurs et anatomistes, et de Marie Perrault, dont on ne sait rien. C'est là que nous vivons. Ou que nous rêvons. Et les rêves vont en bande, vivant eux aussi, rêvant, là où tout se perd.
Esprit animaux, une création de
Alice Roland
et Stéphane Montero.
Réalisé par
Véronique Lamandour.
Avec les voix de
Gaspard Delanoë
et Alice Roland.
Ainsi que celles de
Philippe de Coufflet,
Aline Roland
et Jean-Jacques Roland.
Et des citations de
Claude Perrault, René Descartes, Thomas Hobbes et quelques autres.
Prise de son et mixage
Jean-Michel Bernot.
L'expérience
Inès Duperron et Aurélie Charron.
La semaine prochaine dans l'expérience, nous repartons à Ouessant. Repartons parce que c'est une suite, Octave Broutard et Céline Terce poursuivent leur enquête sonore sur une disparition mystérieuse sur l'île. Le premier épisode s'appelait « Ouessant, le vent et son sang ». En attendant, il sera bientôt 23h, vous écoutez France Culture et vous retrouvez Mathias Sénard, la salle des machines.